Bonjour et bienvenue sur la formation Windows 1012 R2 pour les administrateurs Linux. Je me présente, je m'appelle Cédric Gauthier, je suis formateur certifié, je travaille dans la société qui s'appelle Global Knowledge France. Au niveau de la société, les cours que je suis amené à dispenser, je dispense les cours sur Windows de Windows 2000 à 2012 R2. Je dispense également les cours sur la gamme System Center, ancienne génération, nouvelle génération. Je dispense également tout ce qui concerne le cloud privé chez Microsoft avec la gamme System Center 2012. Et je délivre également la partie virtualisation avec virtualisation de serveur, virtualisation de présentation, virtualisation d'application et virtualisation du poste de travail. Pour aller plus loin après cette présentation technique, vous avez la possibilité éventuellement de suivre un cours modulaire qui va être mis en place pour la gestion d'un environnement Microsoft pour les administrateurs Linux. Nous avons déjà mis en place au niveau de ces différentes présentations la partie liée au licensing en fait chez Microsoft avec le licensing des serveurs, le licensing des postes clients. On a vu également les types d'installations entre le mode core, le mode graphique, l'administration de mon serveur avec le gestionnaire de serveur ou éventuellement le tableau de bord Windows Essential. Et on a parlé d'automatisation avec automatisation PowerShell et automatisation due à la gamme System Center éventuellement. Ce qui m'intéresserait ici maintenant, c'est je veux mettre en place un serveur. Quelles sont les méthodes de déploiement que me fournit Microsoft, que me propose Microsoft pour déployer mon OS au niveau de mon entreprise. Pour déployer mon OS, ici, un petit rappel sur les différents types de fichiers qu'on va être amené à utiliser, sachant qu'il y a deux grands types de fichiers. Ces types de fichiers, c'est bien d'avoir en fait soit les différents types d'images, mais comment les crée-t-on ces images? Ces images idéalement, comment les modifie-t-on? J'ai une image qui est mise en place depuis 2, 3 mois, 4 mois. Je touche des nouveaux périphériques. J'aimerais dans cette image injecter le driver pour mes nouveaux périphériques. Comment mettre à jour l'image sans être obligé de recréer l'image complètement? Et dernière étape, mon image est prête. Comment va-t-on la déployer? Parmi les méthodes en fait disponibles, que va-t-on trouver? Type de fichier, deux grands types de fichiers. Le fichier original en fait chez Microsoft depuis Vista, c'est le fichier au format WIM. Le fichier au format WIM, en fait, un fichier WIM, est une enveloppe qui contient plusieurs images à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avec un seul fichier WIM, qui on va dire va faire 2, 3 à 4 gigas, on pourrait dedans inclure en fait 3, 4, 5, 6, 7, 10 postes de travail, sachant que les données mises dans le fichier WIM en fait sont instanciées. Un élément déjà mis n'est pas réécrit dans le fichier, ce qui permet de faire un gain de place. Alors après, on pourrait dire oui, mais j'ai un gain de place, mais de l'autre côté, si je perds le fichier, j'ai plus rien. Puisque j'ai un gain de place, je peux éventuellement, pour sécuriser mon fichier, en faire différentes copies. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le stocker sur tous mes data centers, sur tous mes sites géographiques, ce qui permettra d'optimiser les temps de déploiement en particulier. Deuxième type de fichier qu'on va utiliser pour faire un déploiement. Alors, c'est un type de fichier avant qu'on l'utilisait uniquement pour les machines virtuelles, le fichier VHD en particulier. Désormais, ce fichier va être utilisé pour faire un déploiement de machines physiques. Puisque depuis Windows 7 Entreprise ou Intégrale, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle du boot from VHD. C'est-à-dire que sur une machine physique, on pose un fichier VHD, on fait en sorte d'amorcer dessus. Ce qui va permettre en fait, de démarrer la machine assez rapidement. Ce qui nous fait dire désormais que le fichier VHD-VHDX est devenu un nouveau format d'image. Contrairement au fichier WIM, un fichier WIM peut contenir plusieurs images. Un VHD-VHDX ne contient, lui, par contre, qu'une seule image au niveau composant. Donc ce format va être utilisé pour déployer de la machine virtuelle et pour de la machine physique. Je n'aurai plus l'obligation d'avoir deux images en fonction de mes configurations. Sachant que pour le déploiement en fait, d'OS chez Microsoft, depuis Windows Vista, nos environnements ne sont plus assujettis à matériel. Ça veut dire qu'une plateforme faite sur un équipement Dell pourra être déployé sur un équipement HP, pourra être déployé sur n'importe quel système. Éventuellement même, une machine virtuelle générée pourra être prise, le fichier pourra être pris, pourra être mis sur une machine physique. Après, éventuellement, la seule chose à faire, c'est réinjecter les drivers afin que la machine connaisse tous les matériels qui sont inclus. Mais nous n'aurons plus d'écran bleu, de problème de démarrage. Si je veux créer mes images, nous avons toute une série d'applications qui vont permettre de créer ces images. L'outil par excellence que nous avons depuis le départ avec les fichiers WIM, c'est la commande Imagix, sachant que la commande Imagix désormais est dépréciée. C'est-à-dire que ne vous amusez surtout pas à créer une image, en fait, un fichier WIM, avec la commande Imagix, surtout si l'image que vous créez est un Windows 8 ou un Windows 2012. vous ne pourrez jamais exploiter. Même l'image sera corrompue. Donc image XDISM, DISM qui est la nouvelle commande, hein, qui me permet de générer un fichier WIM. Deuxième outil que nous avons à disposition, l'outil disque tout VHD, l'outil de chez Cisternals, en fait, ici, qui va me permettre de prendre une machine physique et de la convertir directement en VHD. Outil qui peut être super intéressant, très intéressant, pour faire du P2V. J'ai 50 serveurs physiques. De ces 50 serveurs physiques, je veux passer en machine virtuelle. Pour certains, en fait, je sais que je peux les installer directement, il n'y a aucun problème. Pour d'autres, j'ai plus les sources d'installation, où il y a des logiciels dedans, en fait, qui me posent problème au niveau installation. Un disque tout VHD pour faire le P2V. À l'heure actuelle, le P2V chez Microsoft, hein, c'est disque tout VHD. Avant, l'outil VMM 2012 savait faire du P2V. Avec la version 2012 R2, le P2V a disparu de VMM 2012. Troisième outil, qui est une évolution d'un outil existant, Convert-Windows Image. Alors, c'est un script PowerShell que je montrerai tout à l'heure. Convert-Windows Image, en fait, c'est l'évolution d'un outil qui s'appelait WIM2VHD. Schématiquement, c'est quoi ? C'est je prends un fichier WIM que j'ai généré avec la commande DISM. Je prends le fichier WIM générique du DVD Windows et à partir de lui, je génère un VHD. Alors, l'avantage, en fait, ici de cette commande, c'est que si, par exemple, je veux générer une image, une image de poste la plus propre possible, la plus fine possible, la solution, c'est pas de déployer une machine, c'est de faire après coup la commande sysprep. La solution, c'est je prends le DVD original et grâce à la commande convertir Windows Image, je vais pouvoir directement générer mon VHD. Si je veux faire un déploiement en machine virtuelle ou en bootframe VHD. Ou sinon, le fichier WIM original me suffira. Outils, Hyper-V qui me permet directement de créer des machines virtuelles, donc de générer le fichier VHD, VHDX. Alors, dans Hyper-V, la création d'images, hein, c'est je monte une machine virtuelle. Cette machine virtuelle, j'installe tous les paramétrages qui m'intéressent dedans. Je fais toutes les activations possibles. Et je t'appelle la commande sysprep. Sysprep qui me permet de généraliser la machine pour faire un déploiement en masse. Après coup, le VHD, je le prends et je le copie dans ma librairie. Autre outil disponible, WDS, service de déploiement Windows. Service de déploiement Windows va nous permettre de faire une capture de machine qui aurait été prémontée. C'est-à-dire que je monte une machine à la main, parce que je ne connais pas les autres outils. Cette machine, également, je l'ai sysprépée. Je veux réussir à faire en sorte de capturer cette image pour la poser sur mon serveur. Outil MDT Microsoft Deployment Toolkit, donc le kit de déploiement gratuit Microsoft pour automatiser les déploiements, va me permettre de générer soit des fichiers WIM, soit des fichiers VHD, VHDX. Au niveau déploiement, au niveau image. Dernier outil, Configuration Manager 2012 R2, va me permettre de générer des fichiers WIM grâce à une procédure qu'on appelle de build and capture. Il va me permettre également, avec la version R2, de déployer un fichier WIM dans un VHD, donc après coup, grâce à ça, d'en faire un sysprep pour récupérer l'image. Donc toute une série d'outils qui vont être plus ou moins utiles. Alors sachant qu'ici, dans le déploiement Microsoft, que vous utilisez un fichier WIM ou un fichier VHD, ces deux fichiers seront exploitables dans toutes les méthodes de déploiement disponibles, rendues disponibles par Microsoft. Avant de créer une image, j'ai quelques questions à me poser, ici, mis à part quel produit vais-je utiliser. La première question, c'est est-ce que l'image est utilisée pour un déploiement en masse ? Ou est-ce que l'image, en fait, le but du jeu, c'est de faire une capture pour virtualiser ? Si l'image est utilisée pour faire un déploiement en masse, dans ce cas-là, il faut penser à la commande sysprep. Si c'est juste une sauvegarde de machine qui m'intéresse, si c'est faire du P2V, dans ce cas-là, sans commande sysprep, je fais une capture directement. Deuxième question à se poser, quel outil sera utilisé pour déployer l'image ? L'outil déployé, en fait, ici, l'incident, c'est quoi ? C'est ai-je besoin de créer un fichier de réponse ou pas ? Exemple très simple, je veux faire en sorte que les utilisateurs puissent installer leur OS à partir d'un DVD, sachant que je veux que la personne ne puisse pas saisir toutes les informations. Sur le DVD, je vais pouvoir mettre un fichier de réponse qui va automatiquement mettre en place qui va paramétrer automatiquement l'assistant. Donc j'ai un fichier de réponse XML que je vais pouvoir générer. Je veux déployer mon image en m'appuyant sur du SCCM 2012, par exemple. Dans ce cas-là, le fichier de réponse n'est pas obligatoire, puisque SCCM va pouvoir, grâce à ce qu'on appelle une séquence de tâches, exploiter un maximum d'informations. Troisième question ici à se poser, quel sera le type de l'image ? Alors, type d'image, en fait, quand on génère des images, nous avons trois types d'images. Ce qu'on appelle des images fines, des images hybrides et des images complètes. Une image fine est une image d'OS dans laquelle, on va dire, il n'y a aucun paramétrage. Une image complète, c'est une image complète de mon poste de travail, OS plus application intégrale pour cette personne, pour ce service. Troisième type d'image, l'image hybride, c'est le mix entre les deux. C'est j'ai un OS, les applications de toute mon entreprise, et par contre, les applications spécifiques seront déployées par un outil spécial, seront déployées après coup. Autre question, est-ce que je veux que mon fichier ait une ou plusieurs images en son sein ? Plusieurs images veut dire obligatoirement fichier WIM. Une seule image éventuellement, soit un WIM, soit un VHD. Après, la différence entre le WIM et le VHD, c'est dans le WIM, il y a instantiation de données, alors que dans le VHD, il n'y a pas cette instantiation de données, tout simplement. Question très importante, quand je veux faire mon déploiement, quand je veux créer mon image, la machine qui va me servir de référence, le poste de référence, dispose de combien de partitions ? Si une machine a plusieurs partitions, que je veux générer une image au format WIM, donc avec la commande DISM, ce qu'il faut savoir, c'est que la commande DISM ne sait capturer qu'une partition à la fois. C'est-à-dire que si ma machine a deux partitions, je devais devoir en fait générer deux fois la commande DSM, l'une derrière l'autre, pour récupérer les informations. Si ma machine a plusieurs partitions, mais que ces partitions sont stockées dans un seul fichier VHD, je vais pouvoir prendre mon VHD, je vais être tranquille. La dernière question, c'est avec tous ces éléments, quel sera le format de l'image ? Fichier WIM, fichier VHD, fichier VHDX, tout simplement. Quelques réponses par rapport aux différents composants qu'on a vus avant. L'image déploiement en masse, la commande sysprep. En fonction de l'outil, comme on le disait précédemment, en fait, pensez au fichier de réponse. La création d'un fichier de réponse est faisable grâce à un outil qui s'appelle le gestionnaire d'image système Windows. Cet outil, gestionnaire d'image système Windows, est présent dans le kit d'installation automatisé Microsoft, nommé l'ADK, Assessment Deployment Kit. À la question type d'image, si je fais une image fine ou une image complète, l'incidence que l'on va avoir, en fait, c'est le temps d'exploitation de mon réseau, mais surtout plus éventuellement, c'est si je fais une image fine et qu'après coup j'ai un outil qui installe les applications, le temps final de déploiement sera plus long qu'une image complète qui inclut toutes les informations. C'est-à-dire qu'après, il y a le temps de passer en fait les différents setups. Nombre de partitions a une incidence sur la commande DISM. Le fichier VHD, dans les différents fichiers utilisés, bien faire attention, si je veux faire un boot from VHD, le boot from VHD n'est pas compatible avec tous les OS. Le boot from VHD, c'est Windows 7 Entreprise intégrale, Windows 8 Pro et Entreprise, ou tous les serveurs à partir de Windows 2008 R2. Si je veux déployer un Vista en boot VHD, on ne sait pas faire. Si je veux déployer un Windows 7 Premium en boot VHD, je ne sais pas faire non plus. Un Windows 7 Pro en boot VHD, ce n'est pas possible non plus. On pourra installer, mais le système nous dira fonctionnalité non prise en charge. Donc ici, il faut bien faire attention. Avant de créer mon image, en fait, de quoi a-t-on besoin ? Que l'on crée une image avec n'importe lequel de tous nos outils, cette image sera exploitable dans tous les outils de déploiement. Pour créer une image, première solution ici, c'est la fameuse commande DISM. ImageX, on va oublier. DISM, Deployment Image Servicing Manager, c'est une commande qui a deux intérêts, on va dire, même voire plus, pourquoi pas. Premier intérêt, c'est avec DISM, nous allons pouvoir faire une capture d'image. Alors, pour exploiter la commande DISM, on ne peut le faire que si l'OS est arrêté, bien entendu. C'est-à-dire que pour capturer une machine, je dois démarrer la machine avec un outil de démarrage tiers, un outil type le DVD Windows, tout simplement, type l'outil Dart que l'on trouve dans le kit MDOP, type un WinPEG paramétré. Je fais mon DISM en mode offline. Dans le DISM, on voit que j'ai un DISM slash capture image. La commande DISM slash capture image me génère un fichier WIM. Si dans ce fichier WIM, je veux mettre deux images en interne, j'ai deux postes de travail qui sont très proches au niveau de l'architecture, il y a juste une ou deux applications qui différencient les deux postes. Je veux générer un seul fichier WIM avec ces deux postes de travail, ne surtout pas faire deux fois DISM slash capture image avec le même fichier WIM. Sinon, au final, je n'ai qu'une seule image. Si dans un fichier WIM, je veux ajouter une deuxième image, dans ce cas-là, je vais faire un DISM slash append image. Après, autre solution, bah, j'y ai pas pensé au départ. On m'a pas expliqué que dans un fichier WIM, on pouvait mettre plusieurs images en simultané. Je génère deux fichiers WIM différents et grâce à une procédure d'exportation, je vais intégrer le deuxième dans le premier. Ce qui me permettra de bénéficier de mon instanciation de données, tout simplement. Deuxième outil que nous avons ici, l'outil Disk2VHD. Disk2VHD me permet de faire une capture à chaud d'une machine physique pour la transformer en machine virtuelle. La différence entre un Disk2VHD et un DISM, bah c'est que Disk2VHD, on va pouvoir choisir en fait les partitions que l'on va inclure dans le fichier VHD. Alors attention, hein, si le but du jeu c'est de faire un P2V, lui, le système Disk2VHD peut vous faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, c'est par exemple, vous avez un serveur Hyper-V sur lequel vous faites un Disk2VHD. Ce VHD, vous l'exploitez au sein d'une machine virtuelle, il voudra bien. Hein. Par contre, Hyper-V dans une machine virtuelle, ça ne fonctionne pas. Donc, vous risquez d'avoir éventuellement certains composants qui vont vous poser des problèmes. Pourquoi pas. Disk2VHD, c'est une commande hein, unitaire qui doit faire 300-400 kg à un maximum que je peux utiliser en fait sans faire d'installation. Troisième outil, l'outil convertir Windows Images. La nouveauté en fait par rapport à un outil qui s'appelait avant WIM2VHD, cet outil convertit un fichier WIM en VHD-VHDX, c'est moi qui vais décider. Donc ça on le verra juste après, en fait on en fera, j'en ferai une petite démo. Ici tout simplement, j'ai même pas besoin de savoir en fait où se trouve le fichier WIM. Exemple, hein, j'ai le DVD Windows original, donc le fichier ISO. Je dis je veux prendre le fichier ISO, il va me proposer les différentes éditions à l'intérieur du fichier et je vais pouvoir générer mon VHD automatiquement. VHD, VHDX, avec la taille dynamique, la taille fixe, et quelle taille. L'outil convertir Windows Images permet de générer des VHD, mais dans les VHD qu'on va utiliser par rapport à de l'Hyper-V, nous avons deux générations de machines virtuelles. Les machines virtuelles de génération 1 et les machines virtuelles de génération 2. L'interface graphique ne permet pas de générer un VHD de génération 2. Pour générer un VHDX de génération 2, je dois passer par une ligne de commande. Je dois faire un script dans lequel je vais dire « Attention, ce VHD aura une partition de style GPT. » GUID partition table. Ici, en fait, c'est parce que une machine virtuelle de génération 2 fera un boot de type UEFI, donc boot sécurisé. C'est la seule solution pour réussir à le générer. Outil après. Bah, l'outil Hyper-V tout simplement, hein. Avec Hyper-V, je crée une machine virtuelle, j'installe ma machine virtuelle intégralement, je fais mes paramétrages, puis après au sein de cette Hyper-V, soit j'utilise la commande DISM pour générer un fichier WIM, soit je copie le fichier VHD, VHDX. Puisque la machine en fait a été 6PP, la copie du VHD, j'ai mon image totale. J'ai juste à prendre mon image et à la déployer au sein de l'entreprise. Autre outil qui me permet de générer une image, l'outil, le service de déploiement Windows. Service de déploiement Windows, WDS. Alors lui, au départ, il est prévu pour faire un déploiement d'OS, bien entendu. Mais je peux, dans mon infrastructure, ajouter ce qu'on appelle une image de capture. Image de capture, ça veut dire que lorsqu'on va booter une machine, le système va nous demander, tu veux faire quoi? Tu veux déployer un OS ou tu veux capturer un OS? En fonction du menu que j'ai proposé. La machine va démarrer sur la capture. Puis après, on va pouvoir capturer et, générer le fichier WIM, mettre le fichier WIM plutôt, sur mon serveur WDS. Une petite imposition pour le service WDS pour la génération du fichier WIM. Non seulement on ne peut capturer qu'une seule partition, première chose, mais deuxième chose, la machine en fait doit avoir été 6PP. Si la machine que je veux capturer n'a pas été 6PP, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire une capture par WDS. Deux derniers outils que nous avons ici, MDT Configuration Manager. Alors ici, MDT Configuration Manager, en fait, sont des outils qui permettent non seulement de déployer, mais qui peuvent me permettre de créer des images. Alors avec la différence ici, hein, c'est que lorsque je vais déployer une image avec MDT Configuration Manager, ces deux technologies s'appuyant sur ce qu'on appelle une séquence de tâches. Dans la séquence de tâches, on pourra dire « j'installe un OS », mais en même temps, j'installe les applications. Donc, je n'ai pas l'obligation ici, en exploitant ces produits, de générer des images qui contiennent toute l'infrastructure. Par contre, il faut savoir quand même que MDT Configuration Manager savent faire des captures. Pour ça, dans MDT, bah, quand je génère une séquence de tâches, on a deux éléments. Hein. on va avoir un élément qui s'appelle le sysprep and capture. Le sysprep and capture, c'est j'ai créé une machine. Cette machine, je veux désormais la capturer. Alors avec MDT, c'est pas moi, administrateur, qui vais sysprepper la machine. C'est MDT qui va le faire pour moi. Le sysprep and capture n'est là que pour capturer une machine que vous avez déployée manuellement, si on peut dire comme ça. On a une deuxième possibilité qui s'appelle le post-OS installation task. Dans ce cas-là, vous avez par une autre séquence de tâches déployé un OS et une fois que l'OS est déployé, vous le récupérez. Donc ici, on pourra enchaîner les deux séquences de tâches pour qu'automatiquement, après coup, le système en fait récupère cette machine. Donc fasse une procédure de bundle capture. Elle n'est pas automatique, mais je peux la générer. Dans Configuration Manager, par contre, ici, tout est prévu nativement. J'ai une séquence de tâches en fait que nous avons ici. Dans cette séquence de tâches, hop, quand je vais générer une séquence de tâches, en fait, je vais trouver directement la séquence bundle capture. Déploie, récupère. De façon automatique. J'ai généré une machine. Cette machine, je veux la capturer parce que je l'ai créée à la main, j'ai déployé à la main. Je vais pouvoir également, dans SSM, générer cette fois-ci ce qu'on appelle un média de capture. Un média de capture, c'est un DVD qu'on va mettre en place sur la machine de référence et qui va utiliser un outil, en fait, pour faire cette capture. Même chose dans le média de capture utilisé, en fait, dans SSM. Je ne fais pas de sysprep sur la machine. Le sysprep sera généré par le media capture directement. Alors attention par contre à un petit élément. Si je veux utiliser un media capture SSM, la machine que je vais capturer doit répondre à des règles spéciales. Ces règles qui sont spéciales, c'est la machine doit être en workgroup, le compte administrateur ne doit pas avoir de mot de passe et la stratégie de complexité des mots de passe doit être désactivée. Alors on pourrait dire que c'est une faille de sécurité, non, puisque quand on va déployer si la machine est jointe à un domaine, automatiquement, de façon, elle va récupérer les stratégies de mot de passe. Donc ici, nous avons différents outils pour travailler. Je veux créer des images. Comment je vais faire pour créer mes images? Ici, deux types d'images que je vais générer. Une première image, je vais générer en fait grâce à la commande qui s'appelle convert-windows-image. Schématiquement, ici, sur ma machine, j'ai un dossier de source avec toute une série de sources en fichier ISO. J'aimerais, à partir de ces fichiers ISO, n'importe lequel, générer un VHD qui me permette d'avoir l'équivalent d'une machine en fait sysprepée. C'est-à-dire que quand je démarrerai la machine avec cet OS, il devra arriver en fait en mode OOBE, en mode dans lequel en fait on va me demander c'est quoi ton clavier et ainsi de suite, tout simplement. Pour réussir à faire ça, ici en PowerShell, donc je vais passer en tant qu'administrateur encore une fois. En PowerShell ici, je vais aller chercher la commande qui m'intéresse. Cette commande, pour moi, elle se trouve dans source création de VHD. J'ai une commande qui s'appelle convert-windows-image.ps1. C'est mon script PowerShell. Alors mon script PowerShell ici, si je l'exécute, il faut que je lui écrive tous les paramètres derrière. Moi, ce que je veux, c'est avoir une interface graphique. Je n'ai pas envie de tout sélectionner pour l'instant. Ici, je vais lui mettre un -show UI. Affiche-moi l'interface. Grâce à mon -show UI, il me dit qu'il faut autoriser pour exécuter, oui. J'ai mon outil qui se lance. J'ai mon écran, il me dit OK. Où se trouve la source d'installation? Ma source d'installation, moi ici, se trouve dans, par exemple, Windows Server 2012 R2. Et ici, je vais prendre un Windows 2012 R2 avec l'update. Ouvrir. Il ouvre mon composant. Alors, ce qu'il est en train de faire ici, c'est que mon fichier ISO, il l'a chargé. C'est-à-dire qu'on voit ici, juste en dessous, j'ouvre le fichier ISO et je vais sur le fichier ISO voir au sein du fichier install.win. C'est-à-dire qu'ici, je me retrouve avec une lettre sur F, c'est mon fichier ISO. Hop, on va voir les deux écrans en même temps. Très bien. Dans ton fichier ISO, voici ce que je trouve comme OS. Un serveur standard en mode core, un serveur standard, un data center core, un data center normal. Sachant qu'un fichier WIM, c'est un fichier qu'on peut générer, pourquoi pas. On aurait très bien pu générer, pourquoi pas, un fichier avec une installation minimale au sein du système. On va pouvoir trouver toutes les images qui nous intéressent. Je vais prendre ici un serveur standard core. Type de fichier VHD, VHDX. Type de disque, dynamique ou fixe. Je vais prendre du dynamique. Quelle sera la taille du VHD au maximum? ce VHD décompressé éventuellement aura une taille de 40 gigas. Sachant qu'ici, hein, un VHD VHDI, c'est également, on peut l'étendre, pourquoi pas. Je vais laisser le créer en fait ici, je vais rien mettre de plus. Je lui demande de créer mon VHD. Donc ici, il est en train de faire mon VHD sans aucun problème. Donc on voit qu'il initialise en fait avec du MBR, il est en train de faire un partitionnement et il ajoute les composants. Donc il est en train de faire une application d'image dans le VHDX, comme si j'étais amené moi à faire à la main la commande DSM d'application d'image. Donc là ici, c'est lui qui me fait tout. Donc là, je suis sur la création d'une image avec la commande convert-windows-image. Alors comment savoir si vous avez une image qui a été générée grâce à cette commande? On verra tout à l'heure quand il aura fini que à la racine du disque, on aura justement un fichier texte qui s'appelle convert-windows-image. Donc j'ai une première solution ici hein, qui me permet de capturer une machine. Deuxième solution qui va m'intéresser ici, là je suis sur une solution en fait où je pars de zéro, je veux générer un VHD. Ma deuxième solution, c'est j'ai sur mon serveur ici une machine virtuelle qui a été montée, sur laquelle j'ai fait un sysprep. Cette machine virtuelle, j'aimerais pouvoir la capturer. La capturer pour générer un fichier WIM, bien entendu. Ici, pour faire ça, je vais m'appuyer sur un deuxième service. Donc là, c'est un service qui est intégré dans Windows depuis Windows 2003 R2. Donc c'est le service WDS, service de déploiement Windows, qui évolue au fur et à mesure du temps. Ce service ici, si je prends mon service de déploiement Windows, si je veux réussir à faire une capture, dans ce service, mon serveur n'est pas démarré. Je vais pas vérifier tout à l'heure. Hop. Donc mon service est démarré ici. Quand je démarre mon service, un élément important, ce sont ce qu'on appelle les images de démarrage. Image de démarrage, c'est le WinPE qu'on va utiliser pour qu'une machine démarre pour après coup récupérer mes images. Ici, nous avons donc ce WinPE de démarrage qui est le Microsoft Windows Setup. On trouve ce fichier directement sur les DVD. Hein, c'est un fichier boot.wim dans le dossier source sur le DVD Windows. Et ici, j'ai un fichier en fait qui est une capture d'OS. Capture d'OS, c'est l'outil qui va me permettre justement de faire la capture de mon fichier WIM. Je prends celui-ci. Quand je demande ici, si par exemple, je veux créer une image de capture, je prends un boot.wim normal et je génère une image de capture. Cette image de capture, quel sera le nom de l'image? Où vais-je la positionner? En fait, dans cette image, le système va rajouter tous les composants pour faire ma capture, tout simplement. Donc ici, je ne vais pas le refaire, hein. C'est ce que je trouve ici justement. J'ai mon image, j'ai mon service WDS qui fonctionne. Maintenant, je veux capturer ma machine. Capturer ma machine ici. Je vais prendre une machine qui s'appelle MVA Capture. Et cette machine, je vais la démarrer. Donc la machine boot. Recherche mon serveur DHCP. Elle devrait trouver. C'est bon. Donc j'appuie sur F12 en fait parce que j'ai pas configuré tous les éléments, je ne vais pas faire un boot automatique. Voilà. J'arrive ici directement en fait. Je veux faire soit du setup, soit ma capture d'OS. Une fois que j'ai fait ma capture d'OS, le système me génère mon fichier WIM. Tout simplement. Donc ici, par contre, pour faire cette capture d'OS, il y a imposition que la machine ait été sysprépée. La machine a plusieurs partitions. Il faudra que je fasse à la main après coup pour récupérer les informations. Donc ici, c'est une capture. Hein. Celle-ci, je ne vais pas la continuer. Je vais aller voir mon élément. Donc ici, il est en train de me le finir. Hein. On a un fichier normalement. Si je viens dans mes sources, Create VHD, je trouve mon fichier qui est en train de se générer. Donc ce fichier qui va être généré ici, c'est un fichier dans lequel en fait nous avons un OS qui est équivalent d'un OS 6 prépé puisque dedans, en fait, je suis parti du fichier WIM original, tout simplement. Pendant qu'il tourne, si éventuellement, plutôt que de faire une image en fait de génération 1, je voulais générer un VHD pour une génération 2. Pour ça, il me faut, dans ce cas-là, passer en PowerShell et ici, réaliser ma fameuse commande avec le VHD partition style GPT. Donc ici, hein, c'est pour une machine virtuelle de génération 2. Une fois que j'ai créé mon image, cette image, je la prends, ce VHD, je le prends. Je vais le poser dans mon serveur de librairie, dans mon dossier dans lequel il y a tous mes VHD pour travailler. Et après, je peux m'en servir pour déployer, sans aucun problème. On va laisser terminer la capture. Donc ici, j'ai la création de ma machine, de mon VHD avec convertir à Windows Image. J'ai une capture, même si je n'ai pas été jusqu'au bout, hein, avec mon système WDS. Donc dans ce cas-là, il faut penser à tous les composants. J'ai une image. Cette image, très bien, je disais tout à l'heure, en fait, l'image a été faite il y a un an, deux ans, trois ans, X années. Le seul problème, c'est que cette image, on la met en place sur des nouveaux systèmes. Ces nouveaux systèmes n'ont pas obligatoirement les mêmes matériels que ce qu'on avait avant. Comment faire en sorte, une image, de réussir à la modifier? Modifier à froid. Alors, pour modifier une image, hein, ici, qu'on ait un fichier WIM, un VHD ou un VHDX, on peut les modifier à froid, sauf dans le cas où la modification, c'est installer une nouvelle application. On va pouvoir, dans une image à froid, ajouter des drivers, ajouter des packages qui pourraient correspondre, par exemple, à des correctifs de sécurité, qui pourraient correspondre à une nouvelle fonctionnalité Windows, en fait, qui impose des packages. Exemple, sur un Windows 2012 R2, j'ai besoin d'installer le .NET Framework 3.5. Ben, le .NET Framework 3.5, c'est une fonctionnalité, mais il me faut le package correct. Je pourrais éventuellement changer l'édition. Je pourrais rajouter des fichiers. Je pourrais mettre un fichier de réponse. Je pourrais y mettre beaucoup de possibilités. Il y a aussi beaucoup de possibilités. Les modifications que je vais apporter dans mon image vont être générées grâce à la commande DISM. Cette fameuse commande, en fait, de modification d'image. La commande DISM modifie des images WIM ou VHD déjà montées. DISM peut également intervenir sur une machine physique. L'outil DISM peut faire des modifications. C'est moi qui les initie. Ce qu'il faut savoir, c'est également que les outils de type WDS, le service de développement Windows, l'outil MDT et l'outil SSM, sont également capables d'apporter des modifications à des images, d'injecter des drivers par exemple. Schématiquement, j'ai une machine, en fait, une image de machine que j'avais générée dans laquelle il manque de driver. SSM peut rajouter driver dans l'image, sans aucun problème. Comment réussir à faire ces composants? Comment peut-on ajouter une fonctionnalité Windows dans un VHD? Par exemple, le VHD que j'ai fait. Mais comment peut-on également, dans ce VHD, injecter des drivers? J'ai créé mon VHD, mon fichier WIM, il y a deux ans, trois ans. Comment faire en sorte que quand je le déploie maintenant, ça fonctionne instantanément au niveau composant? Donc, mon VHD est bien terminé. Je vois bien ici, il me dit qu'il a terminé mon composant. Hein. Donc ici, je vois que j'ai un fichier qui prend un nom, en fait, non pas aléatoire, mais en fonction de ce que j'ai pris. Ici, je vais dire que, OK, je vais prendre mon serveur standard core fr-fr, très bien. C'est lui que je veux modifier. Alors, si je veux modifier ici un fichier VHD, c'est beaucoup plus simple à modifier un fichier VHD que modifier un fichier WIM. Parce qu'un VHD sur un Windows 2012 R2, il suffit de l'ouvrir en faisant l'élément bouton droit monter. Un fichier WIM à modifier, je dois le monter dans un dossier, et une fois qu'il est monté dans le dossier, je pourrai intervenir. Donc pour monter un fichier WIM, hein, c'est DISM/mountwim. J'ai mon VHD ici, mon VHDX, je veux pouvoir le modifier. Bah, sur ce VHDX, je vais tout simplement le monter. Monter un VHDX, donc ici, je l'ai fait avec un bouton droit à monter. Donc il se trouve ici sur disque local H. Je vois bien en fait une commande qui s'appelle convert-windows-image. Si éventuellement vous n'avez pas d'interface graphique, vous êtes sur une machine en ligne de commande, ou vous voulez le faire en ligne de commande, le montage en fait d'un fichier VHD peut se faire également grâce à la commande disque part. J'en reparlerai tout à l'heure quand on fera le déploiement d'un bout de VHD. J'ai mon disque, ben, je veux racheter des fichiers, il me suffit de faire une copie, hein. Il me suffit de rajouter un dossier, Cédric par exemple. Dans ce fichier, oui, dans ce VHDX ici, je veux racheter une fonctionnalité Windows, je veux savoir ce qui est mis dans cette machine, en ligne de commande, en tant qu'administrateur, ici, je veux savoir quelles sont les fonctions qui existent dans ma machine. Je vais pouvoir faire, grâce à la commande DISM, un DISM slash image. L'image se trouve sur H2. J'aimerais qu'il me donne les fonctionnalités Windows. Je vais pouvoir lui faire un get feature. Je veux avoir un élément un peu présentable, une sortie un peu présentable. Je vais mettre un slash format de point table. Ici, le système regarde le fichier WIM, regarde le VHDX et va me donner toute l'information. Attention, quand vous travaillez sur des VHD et des WIM, prenez toujours la commande DISM de dernière génération. Nous sommes à l'heure actuelle sur un 2012 R2 Update 1 avec un numéro de version en fait en 9600-17031. Si vous prenez le DISM de l'ancienne génération, vous risquez d'avoir des erreurs. Ici, dans mon système, il me donne toutes les fonctionnalités disponibles. Je peux comme ça, grâce à la commande DISM, réussir à activer un peu tout ce que je veux. Par exemple, ici, j'ai... on va prendre ça. Ici, j'aimerais sur mon système, dans mon VHD, quand je déploie, que la fonctionnalité Telnet client soit automatiquement activée, que l'hyper-V soit activé, et ainsi de suite. Comment faire ? Ben, ici, je prends la fonctionnalité qui m'intéresse, et je vais pouvoir, grâce à la commande DISM, donc image.h2. Je vais pouvoir lui dire, je veux faire un enable-feature, la fonctionnalité qui m'intéresse, je ne l'ai pas gardé, c'est Telnet client. En faisant cette opération, le système ici va prendre en fait en fonction du package de Windows Foundation et me rajoute mon Telnet client. Maintenant que j'ai rajouté mon Telnet client, je vais pouvoir demander à voir en fait les fonctionnalités. Et dans les fonctionnalités, si je regarde bien, je dois voir apparaître que mon Telnet client désormais est activé, alors que précédemment, le Telnet client n'était pas activé. Ça veut dire qu'ici, en fait, je peux rapidement rajouter des choses au sein de mon infrastructure. Je veux ajouter des drivers. Ben, pour l'ajout de drivers, sur le même principe, ici, je vais copier cette ligne. Hop, coller. Non, il n'a pas voulu la prendre. Copier. Coller. Ici, je vais juste lui dire, attention, l'image se trouve sur H. Bah, ici, je vais pouvoir lui ajouter des drivers. Drivers, en fait, que je trouve dans un de mes dossiers sur mon disque dur. Cette image va être déployée sur des anciennes infrastructures au sein d'entreprises, des Dell 790-7010 par exemple. Mais bon, cette image a été faite avant sur du Dell 755. Je vais le déployer sur des nouvelles machines. Je peux rajouter. Alors ici, j'ai juste. Hop. Avec. Un petit truc comme ça. Ça devrait être mieux. Le but ici, c'est de voir la commande. Hein. Bon, celle-ci ne fonctionne pas, il faudrait que je regarde mon dossier. Je dois avoir un problème sur le dossier que j'ai au final. Mais ici, je rajoute en fait mes fonctionnalités. Je rajoute mes drivers, je rajoute tous mes composants. Je peux éventuellement modifier les claviers, je peux tout modifier sur mon système. Mon image ici, mon fichier WIM, j'ai fini de le modifier. Ben, ce fichier WIM, je vais directement pouvoir, puisque j'ai fini, je vais pouvoir l'éjecter. Ce fichier WIM, j'ai fait la modification, je l'ai monté, j'ai fait la modification, je le ferme et je viens de générer mon image. Maintenant, ce fichier WIM, ce VHD plutôt, ce VHD ou ce fichier WIM, je vais pouvoir le déployer. Déployer ce fichier, ici, bah, quel outil vais-je utiliser pour faire mon déploiement ? Parmi mes outils, encore une fois, on retrouve les outils que nous avions avant. J'ai l'outil Magix, DISM. L'outil service de déploiement Windows, qui permet le service de déploiement Windows depuis Windows 2008 R2 de déployer des WIM et des VHD, VHDX. Je peux utiliser MDT 2013. L'outil Configuration Manager, qui me permet de déployer des fichiers WIM. Et l'outil VMM, System Center Virtual Machine Manager, qui va me permettre de déployer du VHD, du VHDX. Pourquoi pas? Donc ici, pour provisionner des machines physiques en particulier, ou après coup, de la machine virtuelle. Parmi ces étapes, si je veux utiliser en fait la commande Imagix, la commande DISM, ou éventuellement faire un bout de VHD dans mon infrastructure, sachant que je n'ai pas de service de déploiement en tant que tel. Pour ça, la première solution, c'est une solution manuelle. La solution manuelle, l'intérêt, c'est je prends une image, je peux à la main déployer cette image sur une machine, et après coup, rapidement, je peux voir ce qui se passe. Alors après, on pourrait se dire, pour tester l'image, ici, on peut mettre l'image dans le serveur WDS. Oui, le seul problème, c'est qu'il faut prendre l'image, la copier sur le serveur WDS, la charger, puis après la déployer. Alors qu'ici, en 2 secondes, en fait, quasiment, on a tout fait. Pour réussir à faire ce déploiement ici, ce qu'il me faut, c'est démarrer la machine depuis un support bootable. Le support bootable, c'est soit un WinPE générique, soit un WinPE que vous avez fait. Le DVD Windows, tout simplement. Ou pourquoi pas l'outil Dart, Diagnostic and Recovery Toolset, que l'on trouve en fait dans le kit MDOP. Une fois que j'ai récupéré ma machine, que j'ai démarré ma machine, je vais préparer mon disque dur. Préparation de disque dur, c'est partitionner le disque dur, c'est formater le disque dur, et surtout, c'est activer le disque dur. Je vais déployer mon image. Déployer une image, si par exemple c'est une image WIM, je vais déployer l'image avec DISM ou ImageX. Déployer une image, si je veux faire un boot from VHD, je prends le VHD, je le copie sur le disque dur. Une fois que j'ai fait l'opération, j'ai plus après coup qu'à générer le BCD, le boot configuration data, qui est le remplaçant du boot.ini. Je génère le BCD pour démarrer la machine. C'est-à-dire qu'on va voir après coup qu'on a une petite commande qui permet de tout faire pour nous, très simplement. Donc ici, c'est une solution manuelle. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais moi, dans mon entreprise, j'ai 10 000 postes à déployer, c'est pas la solution que je veux. Après, c'est quand même une solution qui est envisageable, qui est assez rapide pour déployer 2, 3, 4 machines à côté, rapidement. Deuxième solution que nous avons ici, c'est le déploiement depuis le service WDS. Le service WDS ici, qui est inclus dans Windows depuis Windows 2003 R2, ici, avec des évolutions en fonction des versions. Déploiement depuis WDS, c'est tout simplement dans mon serveur WDS, je vais charger des VHD ou je vais charger des fichiers WIM. Je vais charger une image de démarrage et juste avec ça, je peux déployer. Éventuellement, ce que je peux faire en plus, ce qu'on peut rajouter dans un WDS, c'est que je vais pouvoir rajouter des pilotes qui seront fournis au poste client. Je reviens sur mon élément, j'ai créé une image sur des Dell 755 par exemple. Je veux déployer cette image désormais sur des Dell 790 ou des Dell 7010. Les drivers réseau n'existent pas, il y a un manque des drivers sur ma machine. Comment faire? Comment faire sans modifier l'image en permanence? Je demande à WDS, par exemple, de fournir des pilotes au niveau du système. Avantage WDS également lors du déploiement, c'est qu'on peut faire de la transmission par multidiffusion. Et après coup, on prépare la multidiffusion, les machines viennent se connecter sans aucun problème. Dans le déploiement WDS, en fait, comment ça fonctionne? On le mettra en place juste après. J'ai une machine qui démarre, un peu comme tout à l'heure pour ma capture. La machine démarre, elle boot. On lui fournit en fait ici le menu « Tu veux t'installer ? Tu veux faire une capture ?» Cette image, après coup, en fait, on a un écran qui nous dit sur quel clavier tu veux travailler. J'ai après coup la liste des différents OS fournis sur mon serveur WDS, donc des fichiers WIM que j'aurai implémentés, des fichiers WDS, des fichiers VHD que j'aurai mis en place. Le système commence à s'installer pour après coup avoir une fin d'installation. Donc ici, on a un temps de déploiement qui va être assez rapide avec WDS. On le verra après coup. Éventuellement, déploiement, je ne vais pas le faire avec WDS. Je vais le faire en fait avec un outil qui est l'outil ultime chez Microsoft, à mon avis, qui s'appelle Configuration Manager. Alors, dans Configuration Manager, la différence avec un WDS en particulier, c'est que dans Configuration Manager, quand je déploie un OS, je peux déployer un OS, déployer les correctifs, déployer les applications, déployer le driver, je peux tout faire. Dans Configuration Manager, je ne suis pas obligé de m'appuyer sur des fichiers de réponse. WDS, si je veux automatiser au maximum l'opération, je dois générer un fichier de réponse. Dans Configuration Manager, sur ce qu'on appelle un site primaire, on va mettre en place tous les objets que l'on veut déployer. Les applications, les packages, les correctifs, les images qu'on veut déployer. Avec Configuration Manager, on va pouvoir choisir qui va être déployé. Est-ce que je déploie n'importe qui, machine connue ou inconnue, ou est-ce que je ne déploie que des machines que j'attends, ce qu'on appelle des machines préconfigurées. Une fois que j'ai fait mes paramétrages, que j'ai créé tous mes objets, ici, je vais, après coup, avertir différents serveurs. Différents serveurs que des déploiements vont apparaître. Premier serveur qui est très important, c'est ce qu'on appelle le point de distribution. Le point de distribution, c'est un serveur, en fait, tout simplement, qui va fournir des sources à des clients. Deuxième serveur qui est encore plus important qu'un point de distribution, c'est ce qu'on appelle un point de gestion. Le point de gestion, également appelé management point en anglais, c'est le serveur qui est contacté par un client pour savoir ce qu'il doit faire. Si le client ne contacte pas le point de gestion, rien n'est possible. Troisième serveur ici, en fait, que j'ai mis à côté, point de distribution avec PXE. Bah, si je veux déployer des machines, en fait, qui n'ont pas d'OS, sur lesquelles je ne fournis pas de DVD, je veux qu'elles bootent depuis le réseau, sur ce point de distribution, nous allons activer la prise en charge du PXE, la prise en charge du boot de carte réseau. Donc soit les machines pourront booter sur la carte réseau et récupérer mes informations, soit éventuellement autre solution avec Configuration Manager, on peut générer un DVD pour que la machine se connecte à l'infrastructure. Ou également, on peut créer un DVD en fait pour un déploiement en mode offline. C'est-à-dire que le DVD contient le boot, l'image de l'OS et l'image d'application que je vais installer. Lorsque la machine démarre, la machine est prise en charge par le boot PXE. La machine, une fois qu'elle est prise en charge, elle va voir le point de gestion pour savoir ce qu'elle doit déployer, pour savoir ce qu'on appelle séquence de tâches elle doit utiliser. Puis elle va sur le point de distribution pour récupérer les fichiers. Ici, le problème, c'est quand une machine se connecte à un point de distribution, l'ordinateur qui vient voir mon serveur, à l'heure actuelle, n'est pas connu. Cette machine, pour accéder au point de distribution, va utiliser un composant Configuration Manager qu'on appelle le compte de connexion réseau. Une fois que la machine a récupéré ses fichiers, l'installation se réalise. L'installation se réalise intégralement et le client dit au serveur « c'est bon, je suis installé ». Alors sachant qu'ici, on est sur une installation, on va dire en boot PXE, dans Configuration Manager, on peut très bien installer des machines neuves comme mettre à jour des machines existantes, sans aucun problème. Éventuellement, la machine a déjà des informations. Je veux faire une migration. Je veux passer de Windows Vista à Windows 8, par exemple. De Windows XP à Windows 8. Le problème, c'est que Windows XP à Windows 8, ça n'existe pas, le chemin. Je suis obligé de passer par une phase de migration. Le but du jeu, c'est que je récupère les données d'utilisateur Windows XP. Et ces données d'utilisateur, avant la phase d'installation, je vais les stocker sur un serveur. Un serveur dans SCCM qu'on appelle un point d'état de migration. Il y a stockage d'informations sur le point d'état de migration. On installe l'OS, on récupère les données d'utilisateur. Donc ici, on est sur un outil où la configuration n'a plus rien à voir avec un serveur WDS. Il y a quelques connaissances à avoir. Autre outil de déploiement que nous avons ici. Alors, outil spécifique dédié machine virtuelle, dédié virtualisation, c'est déployé à partir de l'outil VMM, Virtual Machine Manager, à partir de 2012. Alors, VMM permet de gérer des serveurs Hyper-V, oui. Donc permet de déployer des machines virtuelles. Très bien. Sauf que VMM peut également, pourquoi pas, provisionner des serveurs Hyper-V physiques. Provisionner avec la version 2012 R2 des serveurs de fichiers physiques également. Alors par contre, pour réussir à faire cette opération, il faut que le serveur que je contacte soit attaquable à distance par les protocoles IPMI ou SMASH. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas le faire sur n'importe quel matériel. Donc ici, en fait, moi, depuis VMM, je vais demander à installer un serveur qu'on appelle le serveur Metal avec Kotlin OS. Ce serveur, lorsqu'il boot, il va démarrer sur le PXE. Donc un peu comme si j'appuie sur le bouton d'une machine qui va aller voir le serveur WDS. Il boot sur le PXE. Alors le PXE, c'est un serveur WDS, c'est le serveur de déploiement Windows, bien entendu. Ce PXE, en fait, va aller voir dans VMM s'il est autorisé. S'il est autorisé, le serveur WDS n'envoie que l'image de boot. Dans le cas du déploiement à partir de VMM, WDS n'envoie rien d'autre que l'image de boot. C'est cette image qui est déployée, uniquement. Tout le reste est fourni par l'infrastructure VMM. C'est l'infra VMM qui va fournir le VHD et ainsi de suite. Contrairement à un déploiement pur avec WDS. Ici, la machine va exécuter les opérations sans particulier à faire un partitionnement. Ah oui, on ne peut pas installer, récupérer un fichier si le disque dur n'a pas été partitionné. Un peu ce que l'on ferait à la main si on faisait tout en manuel. Ce serveur va télécharger le fichier, VHD, VHDX, en fonction de ce que je lui demande de faire. Éventuellement, on va injecter le driver. Bah oui, il se peut que, même chose en fait que sur les postes clients, hein, qu'il manque driver par rapport à mes nouveaux serveurs, tout simplement. Ce serveur que j'ai ici va être personnalisé et joint au domaine. Donc on a un serveur IPv4, un serveur de fichiers, personnalisé et joint au domaine. Une fois que le serveur est personnalisé et joint au domaine, le système va activer IPv4. L'activation IPv4 va retirer le serveur bar metal et nous avons un nouveau serveur IPv4 qui apparaît avec l'agent Virtual Machine Manager. C'est-à-dire qu'ici, hein, c'est un des outils qui va pouvoir être utilisé pour faire du déploiement d'OS. Alors dans le cas du déploiement à partir de VMM, nous allons utiliser ce qu'on appelle du boot from VHD. Donc ici, hein, c'est cette technologie-là. Donc toute une série de technologies qui vont nous permettre de travailler, hein, et qui vont permettre après coup d'exploiter mes différents composants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les déploiements, nous ne sommes pas obligés de directement attaquer, en fait commencer par du configuration manager. On peut très bien, dans les outils de déploiement, commencer petit avec éventuellement 2-3 installations à la main, puis après coup évoluer vers un serveur WDS. WDS m'automatise des choses, mais pas assez, je passe dans MDT. Puis de MDT, j'évolue vers SCCM. Alors après, hein, est-ce que j'utilise du MDT ou du SCCM? Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients au sein de l'infrastructure. Si moi je veux déployer une machine, ici, déployer une machine en fait, en m'appuyant sur deux technologies. Première technologie en fait, qui sera, dans les deux cas, je vais faire un déploiement d'un bout de VHD. Je ne vais pas utiliser un fichier WIM, hein, ici, un bout de VHD. Sauf que soit je vais le faire à la main, bah, exemple très simple, hein, j'ai une machine neuve, j'aimerais cette machine neuve pouvoir installer un OS dessus, mais pouvoir très rapidement supprimer l'OS, sans être amené à tout formater. Ou j'aimerais sur la machine pouvoir faire un multi-boot également. L'avantage du boot VHD sur un poste client, ça peut être ça. Et ce même boot VHD, en fait, le faire avec WDS. Alors, pour montrer cette opération, ici, tout simplement, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, pour expliquer, sur mon serveur ici, donc j'ai déjà généré un fichier VHDX. Ce fichier VHDX, en fait, ne contient à l'intérieur que un fichier VHD que j'ai copié. Si je vous le montre, voilà. Donc, dans mon VHDX qui est ici, il y a un deuxième VHDX. Je vais simuler un boot VHD au sein d'une machine virtuelle. Effectivement, ce n'est pas le best practice, mais je ne vais pas en fait casser mon infrastructure ici. Donc pour réussir à faire ça, je vais l'éjecter. Hop. Bah, tout simplement sur mon serveur Hyper-V, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Cette machine virtuelle que je vais appeler boot VHD. Je vais aller poser la machine virtuelle dans le dossier Microsoft, ici. Cette machine virtuelle, ça va être une machine virtuelle de génération 1. On reparlera des générations, en fait, avec la partie virtualisation. Cette machine virtuelle, je vais lui associer 2 Go de RAM, avec de la mémoire dynamique, pourquoi pas. Cette machine virtuelle, je vais la connecter à un de mes réseaux externes. Et ici, je ne vais pas créer un disque dur virtuel. En fait, le temps de copie, c'est assez long. Donc ici, c'est pour ça que j'ai déjà créé mon VHD. Je vais utiliser un disque existant. Et ce disque existant se trouve ici dans boot VHD, boot VHDX. Très bien. J'ai un OS ici, très bien, dans lequel en fait il y a un fichier VHD, il y a tout ce qu'il me faut. Le seul problème, c'est que cette machine ici, si je la démarre, bah, il ne trouve rien. Normal, puisqu'ici en fait j'ai mis des composants, ok, mais dedans en fait j'ai pas dit tu vas amorcer dessus. Comment faire? Bah, pour ça en fait il faut que cette machine, j'ai un outil d'amorçage. L'outil d'amorçage que je vais utiliser ici, moi, c'est l'outil qui s'appelle Dart. Donc je vais aller dans mon dossier source, MDOP, Dart. Je vais prendre un Dart 8.1. Hop. Donc ici, je vais demander à redémarrer la machine. Donc la machine va démarrer sur mon DVD. On va laisser démarrer. Il devrait prendre un peu de temps normalement. Voilà. Est-ce que je veux initialiser la connectivité réseau en arrière-plan? Non, j'en ai pas besoin. J'ai déjà copié les éléments. Je suis sur un clavier en français. Je vais dépanner. Alors le but du jeu ici pour moi dans le dépannage, hein, c'est pas d'utiliser les vrais outils Dart. C'est de faire en fait ici des options avancées. En fait, je veux en ligne de commande, ici, je suis sur une machine neuve, hein, une machine en fait sur laquelle je veux faire des tests. Je veux copier un VHD et je veux réussir à booter dessus. Après coup, on verra la même chose en partant par WDS. Donc ici, j'ai mon invite de commande. Si je viens sur C, on voit que sur C, j'ai bien un fichier qui s'appelle 2012r2data.vhgx. Très bien. Par contre, sur C, j'ai rien d'autre. Donc ici, le but du jeu, c'est de réussir à dire au système, attention, il faut que je puisse amorcer. Pour amorcer, il faut qu'on remplisse un composant qui s'appelle le bout de configuration data. Bah, le problème, c'est qu'ici, bcd-edit, il n'existe pas, hein, puisqu'il n'est pas encore existé. Il n'est pas encore créé, plutôt. Donc le but du jeu, c'est de réussir à créer ça. Bah, créer ça, comment peut-on faire? Il y a plusieurs solutions hein, qui existent. La solution la plus simple, c'est quoi? Bah, c'est de prendre mon VHD-VHDX, de le monter, comme j'ai fait tout à l'heure en fait en faisant un bouton droit monter. Le seul problème, c'est qu'ici, je n'ai pas d'interface graphique. Donc, c'est de réussir à monter ce VHDX en ligne de commande. Une fois que c'est fait, demander à amorcer dessus. Pour ça, je vais prendre le nom du fichier. Je vais utiliser une commande qui s'appelle diskpart. La commande diskpart évolue au fur et à mesure du temps. Hein. Avant, on ne gérait que des disques durs physiques, que les partitions au volume. Désormais, on peut également gérer des fichiers VHD et VHDX, pourquoi pas, pour faire un bout de VHD également. Ici, je vais lui demander de me sélectionner un disque dur virtuel, un VDISC, dont le fichier se trouve sur C, et il s'appelle 2012r2data.vhdx. Donc ici, je lui dis, sélectionne-moi le fichier. Le seul problème, c'est qu'ici, il me sélectionne un fichier, oui, mais le problème, c'est qu'il ne lui a pas associé de lettre de lecteur. Pour associer la lettre de lecteur, je vais lui faire un attache VDISC. Cette fois-ci, j'ai directement en fait à ce disque associé une lettre de lecteur. Ici, je peux lui demander de me donner la liste des volumes. Bah, la liste des volumes ici, je vois que mon volume, c'est la lettre E. Donc cette lettre E ici, hein, qui va me permettre de bosser. J'ai 80, on va voir si ça passe. Je risque d'avoir un souci, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai mon composant. J'ai monté l'élément, je vais la lettre E. Comment réussir à amorcer sur ce VHD que je viens de copier, ce VHDX que j'ai mis en place? Bah, tout simplement, je vais utiliser une commande qui s'appelle bcdboot. La commande bcdboot est une commande qui me permet de réparer ou de créer le boot de configuration data. Je vais tout simplement lui dire bcdboot e://windows. Donc je lui dis où se trouve l'information. Et j'appuie sur Entrée. Les fichiers de démarrage ont été créés. Si je reprends la commande de tout à l'heure avec le bcdedit, je m'aperçois ici qu'il me dit j'ai le boot manager, donc l'élément qui va me permettre de booter qui se trouve sur C. En général, vous pouvez le trouver sur une partition cachée, partition de 100 MB ou de 300 MB. J'ai la lettre par défaut. Et il me dit, attention, ça se trouve sur E. Oui, mais le problème, c'est que E, c'est parce que c'est, à l'heure actuelle, monté. Que se passe-t-il si je démonte mon disque dur? Donc, je retourne dans disque part. Je vais resélectionner mon disque dur. Et cette fois-ci, je vais faire un détache VDISC. Détachement veut dire, j'en veux plus. Oui, mais si j'en veux plus maintenant, le problème, c'est qu'ici, la partition qui s'appelait E, désormais, ça s'appelle plus E. Je quitte. Si je refais mon BCD Edit, ben je m'aperçois que le système ici m'a automatiquement modifié l'information qui ici s'appelait partition égale E en VHD égale. Donc ici, je viens de faire un boot from VHD à la main. Alors, OK, c'est faire des opérations manuelles, mais ça peut être intéressant de savoir faire ça si, par exemple, vous avez une machine et que vous voulez tester un autre OS sans casser l'OS existant et vous ne voulez pas créer une deuxième partition. Donc, on va pouvoir rapidement faire nos tests au niveau système. Maintenant, ici, j'ai plus qu'à quitter tout ça. Alors, ce que je vais faire ici, je vais juste éteindre la machine virtuelle et au niveau de mon disque dur, je vais modifier mon disque dur, en fait, ici, parce que j'ai un disque dur qui ne fait que 80 gigas. Le problème, c'est que pour faire un boot VHD, il faut que la partition sur laquelle on mette le fichier VHD ait au moins de libre la taille du VHD décompressé. C'est-à-dire qu'ici, si je démarrais comme ça, je suis sûr d'avoir un écran bleu. Bah, ce que je vais faire ici, je vais dire, attends, la taille, en fait, fera 181 gigas. Donc, j'étends directement le VHD original, OK. Maintenant, si je démarre cette machine virtuelle, alors, je vais éjecter mon disque et je vais recommencer. Hop, parce que j'avais encore chargé, en fait, mon DVD. C'est bon. Donc, on voit désormais par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est que la machine démarre. Ici. Ah, j'ai un problème de taille de disque. Pourtant, je croyais l'avoir agrandi. Donc, voilà le message d'erreur, hein, où il me dit, attention, ici, il faut que la taille, en fait, soit plus grande, en fait, que le VHD qui est fourni. J'étais persuadé de l'avoir agrandi. Hop. Non, il veut pas. Alors, on va modifier le disque dur. Ici, boot VHD, machine virtuelle. Non, c'est celui-ci. Ouvrir, suivant, étendre. Pourtant, j'ai 181 gigas. Je vais lui dire 500 gigas. Suivant, terminé. Veut-il le faire ? Bon, là, dans ma démo, effectivement, j'ai pas pris la bonne taille de mon VHD. C'est de ma faute. Il veut pas. Bon. On va pas rester dessus. En fait, vous voyez, ici, effectivement, il y a un problème de taille, hein, qui est assez important. Ce que je vais faire ici, en fait, là, j'ai fait à la main. J'aimerais pouvoir faire la même chose, mais en ne faisant rien. C'est-à-dire que j'ai pas l'obligation de copier le fichier, de faire mon WDS, ainsi de suite. De faire mon partitionnement, mon montage. Pour ça, bah, tout simplement, dans mon serveur de déploiement Windows, je vais pouvoir acheter des images d'installation. Je vais pouvoir rajouter des fichiers VHD, VHDX que je vais exploiter. Alors, en 2012, 2012 R2, on a la possibilité d'ajouter l'image d'installation de façon graphique. C'est-à-dire qu'ici, je peux aller chercher, par exemple, sur mon serveur, dans la partie de mes sources, pourquoi pas. Je vais annuler après coup. Je peux dire, en fait, sur mes serveurs, je veux un VHD qui serait, par exemple, ici, pour un serveur core. Ici, si je dis suivant, en fait, continuer, il va automatiquement, en fait, rajouter. Ce n'est pas le but du jeu. J'ai mon image qui est mise en place. Alors, il n'y a pas d'automatisation ici, hein, ce n'est pas très grave. J'aimerais réussir à faire mon boot VHD. Pour ça, je vais prendre... Je vais créer une nouvelle machine virtuelle, ce sera encore le mieux. Déploiement WDS. Ici, dans la partie Microsoft, sélectionné. Suivant, de génération 1. Toujours 2048. Hop, suivant. Connecté au réseau externe, suivant. Je crée un nouveau disque dur qui fera, lui, je dois avoir 80 gigas, on va dire qu'il va faire 250 gigas. Suivant. Très important, je fais de l'installation WDS, je suis sur une machine virtuelle. Je demande à installer un OS à partir d'un système d'exploitation réseau, d'un serveur d'installation réseau. Terminé. J'ai ma machine virtuelle déployée en WDS que je peux démarrer. Donc, je vais attendre qu'il me propose d'appuyer sur F12. Ça devrait arriver très rapidement. Hop, c'est parti. Donc, il récupère le menu en fait de démarrage. Il charge le fichier de boot, le fichier boot.wim. On va le laisser finir. On va pas aller jusqu'au bout de l'installation, mais voir en fait le début de l'installation. Alors ici dans mon installation, j'ai rien automatisé, c'est-à-dire que faut savoir que tout est automatisable derrière, hein, la connexion au domaine, les éléments. Hein. Donc comment je m'appelle ? Je suis monsieur administrateur. Ok. Quel OS veut-on installer ? Bah ici par exemple, je vais installer un Windows 8.update 1. Suivant. Quelle sera la place de l'espace sur le disque dur ? 250 Go. Je l'ai laissé en standard. On voit qu'il reprend ce que j'ai pris. Ici, comme je n'ai pas mis de fichier réponse, hein, il me pose toutes les questions. Donc ici, l'installation va démarrer. L'installation est partie. Donc ici, ce que j'ai fait, hein, j'ai fait la même chose que précédemment. Bon, mis à part que j'ai un petit problème en fait d'espace disque dur sur la machine que j'ai créée. J'ai déployé une nouvelle machine virtuelle en m'appuyant sur le service WDS. Ce que je fais ici sur une machine virtuelle, bien entendu, je pourrais le faire sur une machine physique. Le résultat ici, en fait, qui va se passer, c'est strictement ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire qu'on a une copie du fichier de VHD en local. Puis après coup, le système va faire en sorte, dans le bout de configuration data, de demander à amorcer sur ce VHD. Donc ici, je réussis à faire mon déploiement très très rapidement. Donc voilà en fait ici comment on peut réussir dans le système, comment on peut réussir à déployer un OS plus ou moins rapidement. Après coup, cet OS que je vais déployer plus ou moins rapidement, toute une série de paramétrages sont possibles grâce au gestionnaire de serveur. Et ce qui me permettra de travailler également après coup, bah c'est mon serveur éventuellement. Je pourrais être amené, pourquoi pas, à le connecter à des disques durs. Donc on verra dans la partie d'après. Dans la partie suivante, tout simplement la gestion du stockage.